Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir donc des militants d'attaque et des journalistes du PIAF.
Et notre thème principal sera la santé, et nous recevons Bernard Tepper, qui va nous parler de l'hôpital public, du financement de la Sécu, et de toutes ces choses qui permettent, on l'espère encore, avoir un peu de santé publique en France. Mais on commence, comme d'habitude, par quelques chroniques d'actualité. Mais ce ne sera pas Jean-Marc qui attaque, mais une petite chronique sur l'espace Schengen, pour parler d'actualité, qui est arrivée juste hier matin. C'est-à-dire, dans la presse, nous avons pu découvrir que notre ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, était allé discuter avec ses confrères au niveau des pays européens de l'espace Schengen, afin de s'entendre avec eux, de comment relâcher, rétablir plus exactement, de façon temporaire, les contrôles aux frontières nationales, lorsqu'il y a des cas de pression migratoire incontrôlable aux frontières. Et paraît-il que c'est le cas aujourd'hui entre les frontières grecques et turques. Hein, évidemment, on entend parler tous les jours à la radio, mais moi pas, par contre. Alors, parler de l'espace Schengen, c'est parler de l'Europe et des symboles forts de l'Europe unie et pacifique.
Excuse-moi, il y a déjà un slogan qui est prévu pour la campagne de Manuel Valls en Europe, c'est « Sarkozy l'a rêvé, Valls l'a fait ».
Voilà. Alors justement, on a parlé d'Europe un tout petit peu, vraiment un tout petit peu pendant la campagne présidentielle, et certains nous ont vanté l'Europe unie pacifique. On nous en parle depuis l'après-guerre, et elle repose pour beaucoup sur des institutions. Pourtant, ces institutions sont très critiquées. Par contre, deux symboles forts et quotidiens pour certains, c'est l'euro et l'espace Schengen. L'euro qui nous permet d'avoir une monnaie unique qui peut peut-être simplifier le quotidien de beaucoup, et puis pour ceux qui ont la chance d'avoir une carte d'identité ou un titre de séjour, de pouvoir passer d'un pays à l'autre sans avoir de douane. Ce qui permet de peut-être parler de très bobo, mais effectivement, passer d'un pays à l'autre en ayant le sentiment de rester dans une même unité européenne, c'est bien ça, se sentir européen. Et à l'heure où on remet en cause l'euro pour des questions économiques, on remet aujourd'hui en cause l'espace Schengen pour des raisons de sécurité intérieure. C'est assez étrange, et comme on peut le voir, l'espace Schengen a été habituellement maintenu depuis quelques années. Il a parfois été levé, typiquement lors des grands meetings d'opposition au niveau européen, comme des forums mondiaux ou des forums sociaux. Dernièrement, on a pu se sentir européen en allant à Francfort pour le mouvement Occupy Francfort, pour dire que l'occupation, une sorte de manifestation à l'échelle européenne altermondialiste pour critiquer la finance internationale et sa mise en pratique en Europe. Eh bien, tout ce système Schengen, aujourd'hui, est mis à mal. Si on en croit notre ministre, c'est l'idée de dire que c'est en tout dernier ressort qu'on doit le mettre en place. Mais pour Emmanuel Valls, c'est face à des situations de crise et à des situations exceptionnelles, les États membres de Schengen doivent pouvoir retrouver leur souveraineté. Oui, c'est bien un ministre socialiste qui emploie ces mots-là. Et comme le disait Jean-Marc à l'instant, Sarkozy avait promis de démolir Schengen, mais Manuel Valls vient de le faire. Alors, autre point d'actualité toujours. C'est sur le Québec, et on en parle par contre pas mal dans les journaux, sur les manifestations étudiantes de ces derniers temps. Alors, ces manifestations ont comme point de départ essentiel une hausse brutale des frais d'inscription à l'université pour les étudiants québécois. Ce mouvement, on l'a retrouvé à travers le monde. On a un mouvement similaire au Mexique, au Chili, en Grande-Bretagne il y a 2 ans, et puis encore l'été dernier. Et puis c'est un mouvement assez global de protestation des étudiants ou de la jeunesse dans les pays européens ou nord-américains, comme évidemment le mouvement des indignés à travers toute l'Europe.
Ou encore de façon nettement plus dramatique en Turquie.
Oui. Alors, on peut évidemment le prolonger en parlant du printemps érable, bon, avec le jeu de mots qui est la continuité du printemps arabe, mais on n'est pas du tout dans la même base, vu qu'évidemment, pour le printemps arabe, c'est un mouvement de libération contre les dictatures, contre une oppression d'un pouvoir tout à fait autoritaire. Là, ce sont des mouvements, surtout au Québec, qu'on peut citer peut-être d'enfants gâtés, mais néanmoins, il y a plusieurs raisons assez fondamentales. D'abord, une hausse des frais de scolarité, ça veut dire un accès limité pour une bonne part de la population à une éducation et à l'enseignement supérieur. C'est aussi un système économique tout à fait bizarre, c'est-à-dire pousser la jeunesse à s'endetter avant même d'entrer dans la vie active, bien avant l'entrée en vie active. On pourrait même imaginer que c'est une sorte de méthode libérale pour pousser les gens à entrer directement dans l'économie de marché en s'endettant dès le plus jeune âge.
Et le plus étonnant là-dedans, c'est qu'au moment où le Canada et un certain nombre de pays comme l'Angleterre se mettent à augmenter les droits des étudiants et à les pousser à prendre des emprunts, Obama aux États-Unis est en train de réfléchir à des solutions pour éviter une nouvelle crise du crédit à travers les crédits des étudiants qui pourraient être une nouvelle bulle type subprimes.
Alors si le mouvement a pris de l'ampleur au Québec, c'est aussi en réaction avec le pouvoir et le gouvernement en place, qui est un gouvernement libéral qui est en train de s'user progressivement, et qui d'ailleurs n'a pas eu beaucoup d'idées pour essayer de freiner le mouvement, que créer une nouvelle loi, la loi 78, qui interdisait les globalement les manifestations, le fait de mettre des cagoules dans la rue, le fait de devoir déclarer une manifestation. Bon, enfin, cet ensemble de lois, on l'a déjà, nous, hein, depuis quelques temps. Donc c'est naturellement que tous les étudiants, rejoints par une bonne frange de la population, sont mis à défiler. D'ailleurs, sans avoir un seul jour de grève. Ce sont des manifestations plutôt la nuit, plutôt festives. Donc peut-être qu'on peut le voir comme un mouvement de jeunesse, mais c'est surtout un mouvement de foule qui essaye de refuser le système libéral poussé par le gouvernement et un certain autoritarisme qui va derrière.
Bah, après Juppé, les Canadiens vont peut-être récupérer un autre chômeur célèbre qui pourra leur donner des bonnes idées de maintien de l'ordre, qui s'appelle Nicolas Sarkozy.
Voilà, recherche d'emploi. Mais peut-être qu'ils sauront aussi s'opposer. Ils ont mis beaucoup de choses en place et des très jolis sites internet. Allez jeter un petit coup d'œil sur tous les sites qui essayent de décrier la loi 78. On voit des choses très inventives sur comment résister. Et entre autres des chansons. Et nous allons d'ailleurs écouter « Libérez-nous des libéraux » de Loco Lacasse.
Autour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, M. Jean Charest.
Merci, mon pitre. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs des précaires, avec ce soir des militants d'attaque et les journalistes du PIAF.
Et pour attaquer notre thème de la santé, Jean-Marc va nous parler de santé naturelle.
Alors, vous avez adoré le scandale de l'amiante, le scandale des OGM, le sang contaminé, le brevetage du vivant, les multiples scandales touchant des médicaments qui, au lieu de soigner, abîment ou tuent. Eh bien, vous n'allez pas être déçus, l'Union européenne est toujours à la hauteur de nos espérances. Un petit texte est contacté sous la pression des lobbies pharmaceutiques, un petit texte qui vise à donner le monopole des alicaments et des compléments alimentaires, non pas aux producteurs, qui sont souvent des producteurs qui font des plantes ou des aliments naturels, qui peuvent contribuer à soigner ou contribuer à maintenir les gens en bonne santé, et donner ce marché aux laboratoires. Parce que les labos commencent à s'inquiéter du fait que, justement, beaucoup de gens se défient des médicaments et se tournent vers les plantes qui, finalement, marchent aussi bien, si ce n'est beaucoup mieux, que les médicaments synthétiques. Alors, les labos et leur lobby ont réussi à faire prendre un texte en collaboration avec l'Ordre des pharmaciens, déjà il y a 2 ans, qui vise à faire disparaître les herboristeries, donc en France et dans toute l'Union européenne. Pourquoi faire disparaître les herboristeries? Bah, tout simplement pour donner le marché aux pharmaciens qui vendraient des petites gélules vaguement phytothérapiques à la place de vendre des vraies plantes avec des allégations thérapeutiques certifiées par des herboristes. Alors il y a un petit problème légal, c'est que les herboristes n'existent plus vraiment en France parce que Pétain les a supprimés. On voit une certaine filiation dans cet assassinat de la profession. Alors Pétain les a supprimés en 41. De Gaulle a été beaucoup mieux en 45. En 45, il a laissé les herboristes exercer jusqu'à leur mort. Le problème, c'est que depuis 45, les herboristes en titre ont un peu vieilli, donc il n'y en a plus. Alors je vous parlerai à la fin d'un projet de loi qui vise à relancer cette profession. Alors en attendant, il y a une agence qui n'est pas très connue du grand public, mais qui est très intéressante, qui s'appelle l'EFSA. European Food Safety Agency, c'est-à-dire l'équivalent de l'AFSAPS français, mais au niveau européen, qui est chargé de donner des agréments pour tous les médicaments mis sur le marché en Europe. Et maintenant, donc c'est la nouveauté de cette directive européenne, sur les alicaments, les compléments alimentaires, les vitamines et tous les produits naturels qui peuvent aider à la santé. Alors ça veut dire qu'un apiculteur qui vend du miel ne pourra plus mettre sur son pot que son miel est naturel et qu'il peut aider à soigner les maux de gorge. Sinon, il doit passer par cette agence européenne et obtenir un agrément. Au bout de 2 ans de combat, beaucoup de frais, il aura beaucoup de chance s'il arrive à être reconnu, puisque cette agence européenne a un tri très très sélectif. En 2 ans, sur 4637 dossiers déposés, il y a eu 222 agréments. Donc, évidemment, qui va bénéficier de cette chasse drastique aux agréments? Eh bien, bien sûr, ceux qui ont les moyens financiers, les laboratoires. Alors, c'est pourquoi il y a un certain nombre de gens qui bougent en France et en Europe pour se lever contre cette pratique absolument scandaleuse des labos qui sont malheureusement relayés par les institutions européennes. C'est pourquoi s'est créé, par exemple, l'Institut pour la protection de la santé naturelle, l'IPSN, dont je vous invite à aller voir le site avec beaucoup de renseignements donc sur le problème des médecines alternatives naturelles et de la chasse aux sorcières que font les labos à travers l'Union européenne. C'est ainsi aussi que qu'a été lancée une pétition pour bloquer ce texte européen qui justement mettrait en coupe réglée les alicaments et tous les compléments alimentaires. Il y a une pétition pour la protection de la santé naturelle. Donc là aussi, je vous invite à aller la signer sur Internet. Donc pétition pour la protection de la santé naturelle. Et il y a des choses aussi au niveau français. Il y a une chose qui est passée totalement inaperçue à l'époque, ça date d'il y a un an et on a l'impression que ça remonte à l'Antiquité. C'était en juillet 2011. À l'époque, tous les pouvoirs publics appartenaient à la droite et un sénateur socialiste a déposé une proposition de loi qui n'avait donc aucune chance d'être déposée sur le bureau ou de l'Assemblée ou du Sénat dans la Sarkozy. Et cette proposition de loi visait à réintroduire un diplôme d'herboriste en France, de manière à ce que justement les herboristeries puissent se développer et devenir une alternative à la médication uniquement chimique. Alors, donc, tout ça, ça nous donne des espoirs. Ce sénateur, c'est le sénateur Jean-Luc Fichet. Et alors, les choses ont changé depuis, puisque le Sénat est passé de justesse à gauche. Le président est de gauche et...
Ah bon ?
Oui, enfin bon, presque. Et il y a une chance que l'Assemblée nationale ait une majorité de gauche. Alors peut-être que ce projet révolutionnaire permettra de ressusciter l'herboristerie et donc de contrer les labos. Alors pour finir, on pourrait peut-être se poser une question toute simple et de bon sens. Depuis le temps que les labos veulent mettre en coupe réglée la vie humaine, mettre en péril notre santé... pour faire des gros sous, ne serait-il pas temps de nationaliser tous les labos pour en finir avec ces marchands de soupe ?
Il vaut mieux pas tomber malade, hein.
Bonsoir. La santé, c'est aussi le thème de l'interview de ce soir. Nous recevons Bernard Tepper. Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tu es co-animateur du réseau Éducation Populaire, le REP, un réseau qui œuvre, comme son nom l'indique, pour l'éducation populaire, qui organise des conférences, qui publie des livres, qui forge des outils pour l'action militante. Et tu as également créé les éditions Oser la République sociale, qui publient des ouvrages sur la nécessaire refondation de la République sociale. Tu as d'ailleurs coécrit dans ces éditions 2 ouvrages, Néolibéralisme et crise de la dette, et un qui nous intéresse un peu plus ce soir, Contre les prédateurs de la santé. Alors la santé, c'est un vaste thème. Ce soir, nous allons parler plus précisément de 3 choses. D'abord, l'accessibilité aux soins, le financement de la santé et enfin l'hôpital public. Alors, pour ce qui concerne l'accessibilité, l'état des lieux n'est pas reluisant. Un quart des Français n'a pas de mutuelle, enfin de complémentaire santé digne de ce nom. Plus de 15% des Français renoncent à des soins pour des raisons financières et pour cause, puisque les dépassements ont augmenté de 65% dans les 5 dernières années. Alors pour limiter ces dépassements, par exemple, depuis 2009, on parle d'un secteur optionnel entre le secteur 1 et le secteur 2 qui consisterait à ce que les médecins réalisent au moins 30% d'actes sans dépassement d'honoraires et se limitent à 70% d'actes avec des dépassements d'honoraires, avec une limitation des dépassements, un plafond de dépassement de 50%. Et François, le candidat Hollande parlait également d'encadrer les dépassements d'honoraires. Alors, est-ce que tout ça sera suffisant pour réduire le coût des soins? Et sinon, comment on pourrait réduire le coût des soins?
Alors d'abord, sur les dépassements d'honoraires, il faut voir ce que cette réforme, donnerait comme conséquence. Alors vous voyez un médecin, il reçoit donc un patient, et puis il doit, dans 30% de sa clientèle, appliquer le tarif opposable, et pour 70% de sa clientèle, il doit faire des dépassements. Alors c'est à la tête du client. Donc par exemple, si je suis médecin, j'ai un certain nombre de personnes autour de moi, je vais te dire, voilà, toi, ta tête me revient, je vais te faire un tarif opposable, toi, ta tête me revient pas, les 30% de dépassement, etc., etc. C'est-à-dire que le médecin, au lieu de soigner, de faire un diagnostic, de donner des prescriptions, eh bien, il va faire de la bureaucratie pour décider à qui il va faire des dépassements d'horaires ou pas. Bon, en réalité, si on veut vraiment la santé pour tous, il faut supprimer les dépassements d'honoraires.
Et supprimer aussi le secteur 2.
Bien évidemment, puisque le secteur 2 est un secteur à honoraires libres, et qu'avec le secteur 2, eh bien, il y a, une santé à plusieurs vitesses. Voilà, et donc, d'ailleurs, par exemple, je donne un exemple, il y a plus de 30 départements aujourd'hui en France où il n'y a pas d'ophtalmologiste de secteur 1 dans l'ensemble du département. Donc on voit bien que jusqu'où cela va. Maintenant, sur le problème des coûts, eh bien, moi, j'ai un moyen de diminuer les coûts. Il faut savoir que la France est championne d'Europe, championne du monde, sur les dépenses de médicaments. Alors c'est un peu lié à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Pourquoi on dépense plus en France en médicaments que dans n'importe quel autre pays du monde? C'est tout simplement que c'est le secteur du médicament en France, c'est conflit d'intérêts à tous les étages. C'est-à-dire, vous êtes dans des commissions d'autorisation de mise sur le marché où on doit décider si un médicament est bon ou pas pour la santé publique. Eh bien, ceux qui vont décider ça sont des experts financés par les labos. Alors après, on s'étonne qu'on a Mediator, Vioxx, Distilben, un certain nombre de choses comme ça. Et là, bien évidemment, les choix sont souvent faits pour favoriser en fait les ventes des laboratoires et non par rapport aux problèmes de santé publique.
Donc il faudrait des commissions de mise sur le marché composées de fonctionnaires indépendants
Non, il faut qu'il y ait des experts, mais un expert qui siégerait dans une commission d'autorisation de mise sur le marché ne devrait recevoir aucun financement, aucun salaire de la part des laboratoires pharmaceutiques.
C'est difficile à imaginer qu'un ministre de la Santé, souvent provenant de laboratoires pharmaceutiques ou de systèmes de mutuelles privées, viendrait brutalement changer ce système.
Mais bien sûr. Je vous donne une anecdote. J'ai un ami qui est haut fonctionnaire qui dirige une commission d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, il lançait le débat dans sa commission pour savoir s'il fallait commercialiser ou pas ce médicament. Et l'expert en santé publique a dit, si vous ne commercialisez pas, vous donnez pas l'autorisation de commercialisation, eh bien, tel laboratoire pharmaceutique licenciera 300 personnes. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire les lobbies pharmaceutiques sont au cœur du dispositif.
Donc vaut mieux tuer quelques milliers pour ne pas licencier quelques centaines.
Voilà.
Sûr que le calcul soit bon.
Voilà. Donc s'il y a un moyen de diminuer les coûts, c'est bien sûr dans les médicaments, car nous consommons trop de médicaments.
Alors, pour en revenir aux honoraires des médecins, une proposition du candidat Hollande, c'était de compléter le paiement à l'acte, qui est assez coûteux pour l'assurance maladie finalement, par une rémunération forfaitaire des médecins selon des objectifs de santé. Donc, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en œuvre?
Oui, c'est effectivement une possibilité qui, je dirais, améliorerait les choses. Ce serait loin d'être suffisant. Je crois d'ailleurs que l'avenir est effectivement à l'augmentation des forfaits plutôt que à la, au paiement à l'acte, mais également à l'augmentation de la médecine salariée. Je signale d'ailleurs que ce qui se, il y a une modification en fait à l'intérieur des médecins. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a 39% de femmes chez les médecins, 52% de femmes dans la dernière cohorte. C'est une féminisation très forte qu'il y a dans cette profession. Et cette féminisation entraîne des modifications souhaitées par les jeunes médecins. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on leur demande s'ils veulent s'installer en paiement à l'acte, il y a moins de 10% des jeunes médecins qui veulent s'installer en paiement à l'acte. Donc il y a plutôt une volonté d'augmentation, y compris chez les médecins, de la médecine salariée, et que ça, ça va nous permettre peut-être dans l'interview de promotionner des centres de santé de proximité pour faire de la prévention.
Alors justement, oui, l'accessibilité, c'est pas seulement l'accessibilité financière, c'est aussi l'accessibilité géographique. Alors à Paris, sur la Côte d'Azur, c'est très facile de trouver tous les spécialistes qu'on veut. Par contre, dans le centre du Morvan, c'est un petit peu plus difficile, en banlieue également. Alors comment justement on pourrait éviter les déserts médicaux, les files d'attente chez les spécialistes de secteur 1?
Alors, il y a une proposition du candidat Hollande qui était de fixer un délai maximum d'une demi-heure pour accéder aux soins d'urgence. Alors d'abord, dire une demi-heure, c'est insuffisant parce que il faut dire une demi-heure en situation de pointe. Parce que si c'est une demi-heure à 3h du matin, ça peut être une heure et demie en période de pointe. Donc déjà, cette proposition qui partait plutôt d'un bon sentiment, il faudrait un peu l'étayer. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut une mutation totale du système de santé tel qu'il existe. Et d'ailleurs, le système de santé tel qu'il existe, il a été principalement fait à la Libération parce que la menace principale, c'était des maladies infectieuses, notamment la tuberculose qui a été vaincue, mais qui revient grâce au néolibéralisme. Et de ce point de vue-là, nous avions des maladies infectieuses. Et aujourd'hui, la menace, ce sont des maladies chroniques. Et quand on dit maladies chroniques, le sida, les cancers, le diabète, l'obésité, etc., etc. Et on sait bien que dans les maladies chroniques, il n'est pas suffisant de faire du soin. Lorsque quelqu'un est atteint de diabète, d'obésité, c'est pas en prenant des pilules, en allant à la pharmacie prendre des pilules, qu'on va régler le problème. Il y a, je dirais, de la prévention. Pour faire de la prévention...
En même temps, s'il meurt à cause du médiateur, ça règle la question.
Absolument. Et alors... Pour
et
faire de la
rémunération des médecins actuellement n'intègre pas la prévention.
Ah, tout à fait. Et bien évidemment, si vous voulez la prévention, il faut la financer. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'idée, c'est à partir du moment où la menace sont les maladies chroniques, il faut une organisation en réseau avec, des centres, je dirais, de santé de premier recours très proches des personnes. Ne serait-ce que pour faire de la prévention. Voilà. Et donc, il faut des centres de premier recours, des centres de santé. C'est-à-dire qu'il faut faire, je dirais, presque l'inverse de ce qui a été fait dans la Sarkozy. C'est-à-dire, la Sarkozy, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé des hôpitaux de proximité, des centres de santé de proximité, des maternités de proximité. Eh bien là, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut une organisation en réseau, des centres de santé de proximité, des hôpitaux généraux, et puis les hôpitaux d'excellence qui sont les centres hospitalo-universitaires.
Et ces centres de santé de proximité, est-ce que ça ne risquerait pas de devenir un peu des dispensaires pour les pauvres pendant que les riches continueraient à aller chez le médecin libéral?
Bah écoutez, ça dépend quel système l'on fait. Je pense sincèrement qu'à partir du moment où on fait une prévention de qualité et des soins de qualité proches de chez soi, moi je ne vois pas beaucoup de personnes qui feront une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie pour aller voir quelqu'un d'un peu plus connu.
Alors, le coût des soins, c'est une chose. Autre chose importante, c'est d'avoir des remboursements corrects. Comment faire pour que tout le monde soit couvert à 100%?
Ah ben, c'est très simple. C'est très simple. Il faut changer la logique que nous vivons depuis 30 ans. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on décide de diminuer les remboursements sécu, sécurité sociale, assurance maladie, et d'augmenter les remboursements complémentaires santé. Alors, soyons clairs, les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 4 à 6%. Et les frais de gestion des complémentaires santé, c'est de 15 à 28%. Alors, vous voyez, c'est bien évidemment... et puis, ça a été dit tout à l'heure dans votre présentation, c'est-à-dire que les complémentaires santé augmentent les inégalités sociales de santé, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des complémentaires santé. D'autres qui ont des complémentaires santé, qui sont des complémentaires santé bidons, c'est-à-dire qui ne remboursent rien. Et donc, la solution pour qu'il y ait un accès aux soins de qualité et un accès à la prévention de qualité, c'est le remboursement à 100%, je dirais, pour tous et partout.
D'accord, donc une mesure radicale qui ne fera pas plaisir aux mutuelles.
Non, parce que ça veut dire tout simplement que les mutuelles, je pense qu'elles ont un grand avenir. Elles ont un grand avenir, mais à mon avis, pas dans la complémentaire santé, mais plutôt dans ce qu'on appelle, dans le code de la mutualité, le livre 3, c'est-à-dire dans le développement notamment des centres de santé de proximité. On pourrait, je dirais, favoriser par une loi cadre au niveau des financements, favoriser les mutuelles justement pour augmenter les centres de santé et d'utiliser les mutuelles pour faire de la prévention.
Alors nous sommes justement allés interviewer, faire un micro-trottoir à la sortie du banquet des chasseurs par Java.
Oui, oui. L'est à l'hôpital agré. Non, attendez, autrement, c'est au banquet des chasseurs.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec des militants d'attaque et des journalistes du PIAF.
Et avec Bernard Fepper, co-animateur du réseau Éducation Populaire. Alors, toutes les mesures pour rendre la santé plus accessible que nous a proposé le candidat Tepper tout à l'heure, ça coûte de l'argent. Alors, comment on va financer tout ça?
Alors, excuse-moi, mais il y a déjà une solution trouvée par notre nouveau président très révolutionnaire qui est de taxer la chirurgie esthétique et donc de mettre la TVA à 18,6 sur les nichons, la liposuction ou le Botox.
Merci Jean-Marc pour cette remarque.
Comme ça, le 16e va bien cotiser pour une fois.
Bernard, à toi.
Alors, plusieurs idées. La première, c'est que on nous rabat le coquillard chaque fois sur le trou de la sécu. Bon, ce qu'il y a, c'est que le trou de la sécu, il est construit et fabriqué. Il est construit et fabriqué comment? De la façon suivante. C'est-à-dire que en 30 ans, la répartition des richesses, elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 9,3 points de PIB en moins pour les salaires et les prestations sociales, et 9,3 points de PIB en plus pour les profits. Alors voilà, si les intellectuels du néolibéralisme ne sont pas capables de calculer ce qu'est 9,3 points de PIB, un élève de CM2 est capable. Parce que, par exemple, en 2010, la richesse produite par la France, c'est 2000 milliards d'euros.
Et le trou de la sécu?
C'est 25 milliards d'euros. Mais alors, 9,3 points multipliés par 2000 milliards d'euros divisé par 100. Donc 9,3 points de la richesse, ça fait 186 milliards d'euros. Ça veut dire que si la répartition des richesses aujourd'hui était en France la même qu'il y a 30 ans, nous aurions dans le camp du salaire et de la, des prestations sociales, 186 milliards d'euros en plus. Et il y aurait bien sûr 186 milliards d'euros en moins pour les profits.
Donc largement de quoi financer le trou et donc, même plus que ça.
Le trou de la Sécu est 25 milliards d'euros. Eh bien, on enlève 25 milliards d'euros de 186, il en reste 161. Et à ce moment-là, je proposerais de revenir à cette émission pour lancer un débat sur ce qu'on peut faire avec 161 milliards d'euros par an. Et puis, on appellerait les auditeurs à dire s'ils préfèrent augmenter les salaires, augmenter les retraites, créer des maisons de retraite nouvelles, des crèches nouvelles, faire une véritable prévention sur le cancer du sein, car nous avons de mauvais résultats, ou diminuer la mortalité infantile et la mortalité maternelle.
Alors, sauf que ce déplacement de l'équilibre entre salaire et profit ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui dépend des rapports de force à la base dans les entreprises. Donc, si on compte uniquement là-dessus, on risque de se condamner à l'impuissance. Donc, en attendant de déplacer cet équilibre, est-ce qu'il n'y aura pas des mesures plus immédiates de financement de la Sécu ?
Écoutez, toute mesure, aujourd'hui, le grand problème du financement de la Sécu, c'est un manque de recettes. Alors, le seul endroit où on peut gagner un petit peu, diminuer les dépenses, c'est sur les médicaments, j'en ai parlé tout à l'heure. En dehors de cela, que ce soit dans la médecine de premier recours, que ce soit dans l'hôpital, c'est au contraire, si on veut une santé pour tous, il ne faut plus diminuer les dépenses. Voilà. Peut-être le répartir différemment au sein de l'hôpital, mais ça c'est un autre problème. Mais en masse, il ne faut plus les diminuer. Donc, la diminution c'est lié aux médicaments. Et que, malgré ce que vous venez de dire, eh bien, il faut modifier la répartition des richesses en France. C'est-à-dire que, alors, cette répartition des richesses, cette modification, ça peut s'effectuer en palier. C'est-à-dire que c'est pas demain matin qu'on va modifier une répartition des richesses aussi inégalitaire. Mais il faut démarrer tout de suite. C'est-à-dire que si je voulais lancer un appel au nouveau président de la République élu, eh bien, je lui demanderais qu'est-ce que vous souhaitez faire pour démarrer, je dirais, une nouvelle répartition des richesses avec un processus sur 5 ans.
Alors justement, le candidat Hollande avait une proposition qui était de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG et d'utiliser cette recette pour apporter un complément de financement à la Sécu. Il proposait d'imposer les revenus du capital comme ceux du travail. Est-ce que tu penses que ça aiderait ?
Je pense qu'effectivement, à court terme, ça aiderait, mais je me méfie. Je me méfie. Pourquoi ? Parce que ça entraîne la fiscalisation de la protection sociale, et que cette fiscalisation de la protection sociale, comme par hasard, c'est une demande du MEDEF. C'est-à-dire le MEDEF, lui, ce qu'il veut, c'est supprimer les cotisations sociales. Ce que d'ailleurs Sarkozy a commencé à faire, puisqu'il a supprimé les cotisations de la branche famille, 30 milliards d'euros, et il les a renvoyé sur une augmentation de la TVA à 21,2%. Donc la question, c'est que je pense que ce qui est mauvais, c'est la fiscalisation de la protection sociale. Alors pourquoi la fiscalisation de la protection sociale n'est pas bonne ? Premièrement, je dirais dans les pays qui sont majoritairement fiscalisés, y a problème. Voilà. Il y a plus d'Anglais qui viennent se faire soigner en France que de Français qui vont se faire soigner en Angleterre. Et il y a plus de Danois qui vont se faire soigner en Allemagne plutôt que des Allemands qui vont se faire soigner au Danemark. Bon. Eh bien, l'Allemagne et la France et la Belgique et l'Autriche sont majoritairement assis sur des cotisations. Et donc, ils ont un système meilleur et que, bien évidemment, il y a donc des gens des pays qui sont autour qui viennent à l'intérieur. Alors, c'est facile à comprendre. Si vous dites, par exemple, qu'il faut fiscaliser. Alors, dans la fiscalité, par exemple, vous avez la fiscalité des entreprises. Si, par exemple, on dit on va augmenter les impôts sur les entreprises, dans un état de mondialisation comme aujourd'hui, eh bien, l'évasion fiscale est tout à fait légal d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, supposons par exemple que je suis président d'une multinationale française et que j'appelle au téléphone ma filiale qui me fournit des matières premières au Brésil, Eh ben, je vais lui dire, il y a des méchants qui m'augmentent les impôts. Eh ben, qu'est-ce que je vous demande d'augmenter de 30% le prix des matières premières. Donc, je vais diminuer mon bénéfice ici et donc les impôts que je vais payer. Il va y avoir 30% dans le pays du Sud. Et puis, bien sûr, je demanderai au PDG de la filiale d'envoyer les 30% aux Bahamas dans un paradis fiscal de façon de pouvoir récupérer effectivement cet argent. Donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, le financement de la protection sociale, il doit être immédiatement pris au moment où la création de richesse se fait. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'évasion fiscale. Et la seule façon, c'est la cotisation. C'est-à-dire la cotisation sociale...
Qui permet de prélever la richesse au moment où elle est créée.
Immédiatement, c'est-à-dire que la richesse est créée, fin du mois sur la fiche de paye, et bien voilà. Et donc la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG est une fausse bonne idée.
Alors une autre fausse bonne idée, ou une bonne idée, suivant comment on voit, c'est de préserver sa santé en prenant le vieil adage « Sois feignant » par les amis de ta femme.
On est pas à l'usine. Mais tu veux peu.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les militants d'attaque et les journalistes du PIAF et notre invité Bernard Tepper.
Maintenant nous allons parler de l'hôpital qui est bien mal en point. Des établissements ferment, ceux qui restent sont au bord de l'asphyxie financière. On sait que l'hôpital perd chaque année près de 10 000 emplois et les personnels qui restent sont à peu près aussi mal en point que leur hôpital. Puisque selon une enquête du ministère de la Santé en 2011, 72% des personnels éprouvaient des malaises psychiques. Le candidat Hollande a fait un certain nombre de propositions sur l'hôpital. Il a notamment dit qu'il fallait considérer l'hôpital comme un service public et non comme une entreprise. Ça n'engage à rien. Mais de manière plus concrète, il a proposé de réformer la fameuse tarification à l'activité qui est le nouveau mode de financement des hôpitaux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est cette tarification à l'activité et en quoi c'est mauvais comme mode de financement de l'hôpital ?
Ben c'est très simple. D'abord, la tarification à l'activité, ça nous arrive directement des États-Unis, seul pays développé majoritairement privatisé. Alors, avant l'hôpital était financé par un budget global. Et le changement donc qui a eu lieu... depuis l'arrivée de la droite en 2002, consistait à financer l'hôpital par activité. Alors, voilà, si par exemple, un hôpital fait, je sais pas moi, une centaine d'accouchements, bah, l'accouchement classique vaut tant d'argent, il en a fait 100, eh bien, on lui fait un chèque de 100 fois l'abonnement. C'est-à-dire que on découpe tout en activité, et puis... Bah, on finance en fonction de l'activité. Alors l'inconvénient, bien évidemment, c'est que si on fait une appendicite, par exemple, d'un cadre supérieur en bonne santé, et si on fait la même appendicite à un SDF alcoolique, eh bien, le SDF va rester 19% de plus à l'hôpital, parce que les médecins et les personnels paramédicaux vont bien soigner, y compris le SDF. Mais il va rester 19% de temps en plus, mais il sera financé pareil. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bah, petit à petit, eh bien, on prend les gens rentables. Alors on les met dans des cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires. Et puis les gens moins rentables, on les laisse à l'hôpital. Donc le résultat, c'est qu'on crée, là encore, une médecine à plusieurs vitesses. Et puis... D'une certaine façon, on augmente les inégalités sociales de santé. Donc, bien évidemment, la tarification à l'activité est à combattre.
Alors, la solution, c'est une tarification à l'activité avec un tarif différencié pour l'hôpital et pour la clinique ou un autre mode de financement ?
Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est que premièrement, il faut augmenter l'émission, ce qu'on appelle des MIGAC, c'est-à-dire des missions, des missions en fait qui permettent de rémunérer le service public. Et ça, il faut les augmenter. C'est-à-dire, il faut dire les missions d'intérêt général, les MIG, qui sont payées à l'hôpital, qui représentent 15% du budget hospitalier, eh bien, il faut les augmenter. Il faut peut-être passer à 20% ou à 22%. Et donc, à augmenter les missions d'intérêt général, puisque l'hôpital prend tout le monde, alors que les cliniques privées à but lucratif pour les actionnaires ne prennent pas tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut modifier, effectivement, le système de tarification. C'est-à-dire qu'il faut, premièrement, passer, alors augmenter les missions d'intérêt général, et deuxièmement, développer en fait le paiement, je dirais, non pas à l'activité, mais en fonction de la maladie elle-même. Vous voyez, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on devrait faire une tarification à la pathologie. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on dit, vous rentrez dans certaines cliniques privées, immédiatement, on vous fait un scanner, on vous fait toute une série de choses qui ne servent pas obligatoirement, etc., etc. Parce que chaque activité permet le financement.
D'accord. Donc, il faudra financer l'hôpital plus en fonction des maladies traitées plutôt que des actes réalisés.
Voilà. Et il faut augmenter les missions d'intérêt général. La part du financement par les missions d'intérêt général doit augmenter.
Bien, tout cela fait de beaux chantiers pour notre nouveau président Hollande et son gouvernement. Et tu penses que le changement, c'est maintenant ?
Alors, ça a été le slogan, effectivement, son slogan de campagne. Disons qu'il a fait un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, insuffisantes de mon point de vue. Maintenant, je crois que l'importance du budget de la santé, c'est 200 milliards d'euros. On ne peut modifier les choses que s'il y a, de nouvelles initiatives citoyennes. C'est-à-dire que tant que les citoyens sous-traiteront la santé pour tous, soit à l'État, soit à des professionnels, ça n'avancera pas. Il faut bien sûr qu'il y ait une revendication générale, que le débat s'amplifie, qu'il y ait des actions là-dessus. Et là, je pense qu'il peut y avoir le changement.
Merci.
Et tous ceux qui veulent essayer de combattre, de pousser à ce que le gouvernement se mette en place, il y a par exemple des grèves en ce moment au CHRU de Clermont-Ferrand, tout ça pour éviter que le système ne s'enrhume. Et on finit par l'agenda. Alors Gaël, premier.
Oui, une conférence débat sur le pacte budgétaire et la règle d'or, animée par Benjamin Coria, un économiste atterré à l'invitation de Récif. C'est le samedi 9 juin 2012 à 17h au bar-restaurant Le Lieu-dit, 6 rue Sorbier, dans le 20e, à Paris.
Samedi 9 juin, toujours à 13h30, place d'Italie, il y a un parcours de manifestation pour la journée mondiale de mobilisation contre l'ACTA, le traité contesté pour la mise au pas de protection intellectuelle.
Alors, la nature est un bien commun, non à leur économie verte. Après-midi, des débats autour du Rio plus 20. Donc du 20 au 22 juin 2002 se tiendra à Rio la conférence des Nations Unies pour un développement durable et justement ça va pas, donc samedi 9 juin 2012, accueil et table d'information à partir de 13h30, les Diakonès, 18 rue Sergent Bauchat, Paris 12e.
Et il y aura sur le même thème mardi 12 juin à 20h un débat invité par Attaque Paris 15 avec Gilles Lemaire.
Il y aura également le mardi 19 juin un débat sur l'éducation populaire, pourquoi faire, à l'invitation du Front de Gauche de Saint-Maur, 73 avenue Diderot.
Le mardi 12 juin, tous au Larzac, c'est le vernissage d'une exposition autour des affiches du Larzac. Ce vernissage est suivi de la projection du film en présence du réalisateur. C'est au CICP, 21 Terre, rue Voltaire, Paris 11e. journaliste de sport, marchand de spectacle. Une conférence organisée par l'association de critiques des médias Acrimed avec Alain Vernon, qui est journaliste à France 2, et David Garcia. C'est le mercredi 20 juin à partir de 19h à la salle Jean Jaurès de la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e.
Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin, la MJC de Ris-Orangis, place Jacques Brel à Ris-Orangis, organise le printemps des universités populaires où vont se retrouver de nombreuses universités populaires de toute la France.
Le jeudi 28 juin, au café librairie Michel Fick, maison de l'Arbre à Montreuil, il y aura à 20h une discussion sur la numérisation des ondes avec entre autres des gens de cette radio Fréquence Paris Pluriel.
Alors, le 23 juin 2012, grand apéritif meeting à la rotonde de Stalingrad, contre l'austérité en Europe, solidarité avec le peuple grec.
Et si vous voulez préparer votre été, cet été il y aura la 5e édition de l'Alter Village organisée par Attaque France, du vendredi 20 au 27 juillet, au centre d'ailleurs, à Saint-Jean-des-Aulières, dans le Puy-de-Dôme. Vous pouvez aussi aller faire une balade en vélo pour manifester pour l'Alter Tour, un autre tour est possible, pour justement parler d'autres thèmes que celui du tour de cycliste. Ici, le thème est cette année, une autre fin est possible, du 11 juillet au 19 août, renseignements sur altertour.net. Ce qui termine notre émission. Et nous remercions notre invité Bernard Tepper. Et pour aujourd'hui, Jean-Marc, Gaël et Sylvain et Claude à la technique. Et nous finissons par la chanson Hypochondriaque de Thomas Pithiot.
Journée, disent mes voisins. Parle pour toi, animal. Pour moi, ça commence déjà mal. Je me sens fébrile, peut-être un mauvais rêve.